Laudetur Jesus Christus.
L'organisation de l'État islamique revendique le double attentat suicide d'hier à Bagdad. Daesh rappelle à tous les Irakiens qu'il est toujours présent et capable d'agir sur tout le territoire. Les autorités russes fébriles avant la journée de manifestation à l'appel de l'opposant Alexei Navalny prévue demain. Plusieurs de ses soutiens ont été arrêtés ces dernières heures. Plus de 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la chute du Troisième Reich, l'Allemagne entend expurger ses lois des derniers textes datant de cette période sombre de son histoire. Le blasphème au Nigeria, un adolescent condamné en août à 10 ans de prison par un tribunal islamique, a été acquitté par une cour d'appel. L'occasion de se pencher sur ce crime dans ce pays d'Afrique.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. L'Irak n'en a pas fini avec l'organisation de l'État islamique. Le groupe djihadiste l'a rappelé cruellement hier aux Irakiens en perpétrant un double attentat suicide dans le centre de Bagdad. Daesh a revendiqué hier soir en être l'auteur. Selon un dernier bilan, 32 personnes ont été tuées. À Bagdad, Anne-Sophie Lemoff.
Nous étions tellement contents que la sécurité soit revenue dans notre pays. Les gens marchaient sans crainte dans les rues et n'ont même pas réalisé ce qui leur arrivait lorsque le premier kamikaze s'est fait exploser, explique Moussa, ce rescapé du double attentat suicide qui a frappé jeudi midi un marché bondé du centre de Bagdad. Cette attaque revendiquée cette nuit par le groupe État islamique est la plus meurtrière en 3 ans dans la capitale. L'organisation État islamique assure que 2 de ses hommes se sont fait exploser sur la place Tayaran. Selon les autorités irakiennes, l'un des 2 est de nationalité saoudienne. À l'issue d'une réunion d'urgence, le premier ministre Mustafa Al-Kademi a limogé plusieurs têtes des services de sécurité, dont le directeur du contre-terrorisme au sein du ministère de l'Intérieur et commandant des forces de la police fédérale. Ce double attentat suicide replonge Bagdad dans les pires années du terrorisme, laissant craindre le retour du groupe État islamique sur le devant de la scène. Bien que déclaré vaincu en 2017, Daesh n'a jamais cessé d'être actif dans plusieurs zones montagneuses et désertiques du pays. À Bagdad, Anne-Sophie Lemoff pour Radio Vatican.
Et le pape dès hier avait exprimé sa tristesse dans un télégramme au président Bahram Saleh. Il avait dénoncé un acte de brutalité insensée et exprimé sa confiance que tous continueront à travailler pour vaincre la violence avec fraternité, solidarité et paix. En Syrie, des missiles tirés par Israël sur la province de Hama ont tué ce matin peu avant l'aube 4 civils dont 2 enfants, c'est ce que rapporte l'agence officielle syrienne Sana. 4 autres personnes ont été blessées. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les tirs israéliens ont détruit 5 positions militaires du régime où sont déployées des forces iraniennes et des membres du Hezbollah libanais. Les victimes, toujours selon l'Observatoire, auraient été tuées par les éclats d'un des missiles de la défense antiaérienne syrienne qui serait retombé sur leur maison. Israël n'a fait aucun commentaire. C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur le traité d'interdiction des armes nucléaires, un texte incontournable pour le pape qui y voit le premier instrument international juridiquement contraignant à interdire explicitement ces dispositifs. Le Saint-Siège fut l'un des premiers à signer le traité ouvrant la voie à sa mise en œuvre. La Russie et les États-Unis, comme les autres puissances nucléaires, n'ont pas ratifié ce traité, ce qui n'empêche pas le nouveau président américain de proposer à la Russie de prolonger de 5 ans le traité de désarmement nucléaire qui lie les deux pays. Le traité New Start qui expire début février. Moscou a salué ce matin cette proposition de Joe Biden, mais tout dépendra des détails de cette offre, détails qui sont encore à étudier. Le gouvernement russe anticipe la journée de manifestation des soutiens d'Alexei Navalny prévue samedi. 2 jours avant, les autorités russes ont en effet arrêté plusieurs proches de l'opposant incarcéré de nouveau depuis dimanche. Il leur aurait reproché d'avoir appelé la population à participer à des rassemblements interdits, preuve de la fébrilité des autorités. À Moscou, Jean Didier Revoix.
C'est loin d'être la première fois que les appels à manifester contre le pouvoir lancés par Alexei Navalny sont sanctionnés par les autorités. Cette année, l'interdiction des rassemblements prévus samedi dans tout le pays répond à la nécessité d'éviter la propagation du coronavirus dans un pays durement touché par l'épidémie. Mais ce qui est nouveau, c'est l'arrestation de proches de l'opposant plusieurs jours avant les manifestations. Hier à Moscou, Lyubov Sobol et d'autres collaborateurs du Fonds pour la lutte contre la corruption, Kira Yarmish, porte-parole d'Alexei Navalny, ont été arrêtés. Elles risquent 30 et 10 jours de prison pour avoir appelé à une manifestation qualifiée d'illégale. Ce matin, plusieurs de ses partisans en Extrême-Orient, en Sibérie et dans le sud du pays étaient arrêtés pour les mêmes motifs, alors que jusqu'à présent, les forces de l'ordre attendaient que les personnes concernées sortent de chez elles le jour du rassemblement pour procéder à leur interpellation. Un changement de tactique qui traduit une certaine nervosité de la part du pouvoir et qui adresse un signal clair à ceux qui souhaitent aller manifester. Les autorités ne feront pas preuve de tolérance. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
Sur le plan des vaccinations anti-Covid, la Russie a conclu un accord avec la Hongrie pour lui vendre de larges quantités de son vaccin Sputnik V. Cette semaine, le régulateur hongrois a donné son aval à ce vaccin sans attendre l'aval de l'Agence européenne des médicaments, qui n'a pas encore commencé la procédure d'examen malgré la demande d'enregistrement des autorités russes. Les vaccins et la stratégie de vaccination, tout comme l'expansion des variants de la Covid-19, ont été largement abordés hier soir lors d'un sommet des 27. Les déplacements non essentiels sont fortement déconseillés à travers le continent. Les États renforcent leurs mesures pour mieux contrôler les passagers. La France, par exemple, imposera un test PCR à toute personne entrant sur le territoire national en provenance d'un autre pays de l'Union européenne, exception faite notamment pour les travailleurs frontaliers. La pandémie continue son expansion dans la plupart des pays. L'Allemagne a passé le cap symbolique des 50 000 morts depuis le début de la pandémie. Le pays a enregistré encore avant-hier près de 900 morts en un jour dus au coronavirus. On reste en Allemagne qui, plus de 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, pourrait bientôt se débarrasser des derniers vestiges législatifs datant de l'époque nazie. Une trentaine d'articles de loi et de règlements pourraient être modifiés. À Berlin, les détails de Delphine Herbollier.
Cela n'est pas encore acté ni par le gouvernement ni par le Parlement, mais la proposition a suscité des réactions très positives dans la classe politique. 29 articles de loi datant du régime d'Adolf Hitler pourraient bientôt être supprimés. Ces vestiges de l'époque nazie concernent des domaines très divers comme la réglementation des casinos ou celle du fleuve Elbe dans le nord de l'Allemagne. La plupart de ces textes contiennent des termes liés à cette époque comme celui du Troisième Reich. Un article est particulièrement antisémite, il concerne les prénoms des Juifs. À partir de 1939, les citoyens juifs d'Allemagne étaient en effet contraints d'insérer le prénom Sarah pour les filles et Israël pour les garçons sur leur carte d'identité. Si cette obligation n'est évidemment plus respectée, ce texte n'a jamais été supprimé de l'appareil législatif. Même après la fin de la guerre, cela devrait donc bientôt être le cas. Un symbole d'autant plus nécessaire que l'extrême droite réemploie des termes très fréquents à l'époque d'Adolf Hitler, comme par exemple « traître à la nation ». Berlin, Delphine Herbollier pour Radio Vatican.
Que se passe-t-il exactement au Tigré ? Les Nations Unies ont reçu des rapports troublants de violences sexuelles et d'abus dans cette région du nord de l'Éthiopie, où une opération militaire du gouvernement a débuté en novembre. La représentante spéciale de l'ONU, chargée des violences sexuelles en période de conflit, évoque un grand nombre de viols présumés dans la zone de Mekele, la capitale régionale. Il avait été condamné en août dernier à 10 ans de prison pour blasphème par un tribunal islamique. Un adolescent a été acquitté hier par la cour d'appel de Kano, dans le nord du Nigeria. Il avait été reconnu coupable, en première instance, d'avoir utilisé un langage grossier contre Dieu au cours d'une dispute avec un ami. Les condamnations pour blasphème ne sont en effet pas rares dans le pays. Les précisions à Abuja, d'Ishaka Adegboye.
Les condamnations pour blasphème dans l'État fédéré de Kano dans le nord du Nigeria sont récurrentes. Plusieurs condamnations ont été prononcées, notamment à l'encontre des femmes reconnues coupables de relations sexuelles et extra-conjugales. 12 États du nord du Nigeria, majoritairement musulmans, ont adopté la charia en parallèle du code pénal au début des années 2000. Si la peine capitale a déjà été prononcée plusieurs fois par les tribunaux de la charia, notamment pour adultère ou homosexualité, aucune exécution n'a eu lieu pour l'instant. Les jugements des tribunaux de la charia peuvent être contestés devant le cour d'appel laïque du Nigeria et à la Cour suprême. Si une affaire de blasphème implique un musulman et un non-musulman, le non-musulman a la possibilité de choisir le lieu où il souhaite que l'affaire soit jugée. Les peines prononcées par les tribunaux de la charia comprennent la flagellation, l'amputation et la peine de mort. Ishaka Adegboye à Abuja pour Radio Vatican.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 18h, heure de Rome. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos informations et nos interviews sur notre site internet www.vaticannews.va, ainsi que sur notre page Facebook et notre compte Twitter. Excellente journée à toutes et à tous.